Voilà de retour pour une dernière fois en cette programmation estivale, mesdames et messieurs. François Bertium au micro en remplacement pour une dernière fois de Jim Boulet pour ce nouvel épisode de Cinébrunch. Et comme à l'habitude, depuis le début de l'été, je suis accompagné de ma tendre et chère collègue Vicky Langlois.
Eh hey, bien, bon matin.
Hey, bon matin. Bon matin à tous. Dernière Merci. Émission pour nous.
Oui, la dernière de notre saison estivale.
Exactement, alors que nous céderons la place habituelle à Jim, Milna et François, auxquels vous avez été habitués davantage qu'à nous. Mais nous en profitons justement pour cette dernière épisode, non pas pour faire un petit bilan de l'été, peut-être qu'on va le faire dans les prochaines semaines en s'invitant nous-mêmes à l'émission.
Oui, ben oui, pourquoi pas.
Qui sait, hein, on verra bien. Non, mesdames et messieurs, on vous propose plutôt en fin d'émission un peu notre regard sur la fin de l'année. Hein, maintenant, bon, il y a la saison des blockbusters l'été, mais il y a presque une saison tout aussi excitante et palpitante.
Oui, en effet. Bien sûr.
À l'automne et jusqu'à Noël, jusqu'à la fin de l'été. Donc, on vous parlera de nos sorties qui nous intéressent, ce qui a gardé un peu notre regard vers l'avenir. Mais avant cela, comme à l'habitude, nos deux critiques, alors que j'en profite pour vous faire état de mon opinion sur Ma vie avec John F. Donovan.
Oui, j'ai tellement hâte qu'on en parle.
Oui, moi aussi, j'ai quand même assez hâte quand même. Oui, film qui a beaucoup fait jaser, mais bon, on en reviendra à ce moment-là du nouveau Xavier Dolan. Parce qu'avant cela, toujours dans ton périple vintage, rétro, un petit peu moins cette fois-ci.
Mais inspiré quand même de nos épisodes de Cinébrunch.
Ah oui, tiens donc.
Oui, Inside Llewyn Davis, je t'expliquerai pourquoi.
OK, intéressant. Alors on se lance là-dedans, mais avant tout, petites actualités. Eh oui, petites actualités pour moi ici où j'ai retenu cette semaine deux nouvelles. Bon,
okay.
On l'a dit en début d'émission, hein, vers la fin, on va revenir un peu sur ce qui nous excite dans le futur rapproché, les sorties, tout ça, cinéma. Donc non, je veux pas vraiment parler de films qui vont sortir tout de suite,
c'est
bien entendu.
C'est un peu pourquoi j'ai pas de nouvelles moi aussi ce matin, parce que mes nouvelles étaient gros concernant des films qui s'en viennent.
Ben écoute, j'en ai trouvé une en fait qui m'a bien intéressé sur un film qui n'a pas encore de date de sortie.
Ah, bon.
C'est-à-dire le film Stardust, un film j'avais pas vraiment entendu parler moi personnellement. Du moins, un film dans le fond qui a dévoilé sa première image de l'acteur Johnny Flynn en David Bowie, parce que c'est de là qu'il est question, d'un biopic sur la vie de David Bowie. Mais là où ça devient intéressant, parce que bon, si jamais pour ceux qui ont vu l'image, comme je vous dis, Johnny Flynn, le nom de l'acteur pour le film Stardust, vous allez voir ça sur internet, vous risquez d'être un peu dubitatif au début. C'est-à-dire que, disons que, bon, on voit une sorte de hipster aux cheveux longs dans un café, pas forcément la manière dont on envisagerait de voir David Bowie, ou du moins qu'on a été habitué de voir David Bowie. Mais c'est là toute l'originalité de ce biopic-là, mesdames et messieurs, parce qu'il s'intéresse à la jeunesse de David Bowie, à ses 24 ans, en 1971, lorsqu'il est arrivé pour la première fois aux États-Unis. Et donc, on est non pas dans un énorme biopic fleuve sur la vie et la mort d'un grand chanteur, tout ça, mais plus sur une anecdote, comme on avait pu le faire, mettons, avec...
On a mis une loupe. On a vraiment mis une loupe sur une année précise.
C'est ça, sur un événement très précis. Un peu comme on l'avait fait avec John Lennon il y a quelques années pour Nowhere Man, si
je me souviens bien. Ah, non, moi, ça me dit rien.
Justement, sur la jeunesse de John Lennon, avant même de former les Beatles. Mais... ce n'est pas seulement ça qui m'intéresse vraiment dans la proposition, c'est surtout que le réalisateur du film est ni plus ni moins que Duncan Jones. Et si je te dis Duncan Jones vite de même, ça dit quelque chose?
Absolument rien.
C'est, bon, au niveau de la réalisation, il a réalisé quelques petits films de science-fiction comme Moon avec Sam Rockwell.
Ça, je connais très bien.
Il avait fait Code Source avec Jake Gyllenhaal.
Je connais très bien aussi.
Il avait fait Warcraft il y a quelques années aussi. OK. Et surtout, c'est le fils de David Bowie.
Ah, oui.
Et voilà, et c'est là que ça devient intéressant parce que on a un fils qui décide de faire un film sur son père et qui vraiment va aller prendre l'avenue d'une anecdote méconnue du public. Hein, vraiment d'un moment de sa vie que lui, personnellement, n'a pas vécu parce que son père était 24 ans, bien entendu. Mais on a décidé d'y aller avec une proposition que je trouve relativement intéressante, assez audacieuse comparée à ce qui se fait normalement dans le style biopic.
Mais là, on va être très collé sur son sujet. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de distance ici. Là, on est collé dessus. Là.
Tout à fait.
Ça peut être chauvin, comme ça peut être très intéressant.
Oui, parce que, entre autres, et ça, c'est le truc peut-être qui va en perdre quelques-uns, période oblige, il n'y aura aucune chanson de David Bowie dans le film. Donc, vraiment, c'est un objet assez particulier.
Oui, mais moi, c'est pas pour me déplaire qu'il n'y ait pas de musique de David Bowie, parce que j'ai l'impression que là, on me permettrait de le connaître, lui.
Ben, exactement.
Et non, tu sais, la Stardust, c'est la poussière d'étoiles, hein? Donc, on me permettrait de connaître la poussière d'étoiles et non l'étoile elle-même. Ce qu'on fait présentement avec Bohemian Rhapsody et le film
Rocketman.
Rocketman, où on nous dit à quel point cet homme était destiné à être une légende.
Mm-hmm.
Là, on nous dit cet homme était destiné à être simple.
On est dans un
schéma. Je ne connais pas le film, mais c'est ce qu'on me donne.
On est dans un schéma, c'est ça, beaucoup moins commun que les deux films que tu viens de mentionner, entre autres. Et oui, c'est sûr que je pense que c'est... c'est pour déplaire, surtout d'un point de vue marketing, bien sûr, parce que ça peut être très vendeur. On l'a vu justement avec la bande-annonce de Bohemian Rhapsody, qui avait varlopé tout le monde dans ce genre de medley des grands hits de Queen qui rythmait la bande-annonce, qui donnait lieu à un film qui avait l'air là, extrêmement punché, vraiment là, très rythmé. C'est la force de la musique, hein? Toujours très proche des émotions, tout ça. Là, je me demande comment on va vendre le film. Hein. C'est sûr que ça va être moins facile, ça va être tout aussi intéressant et on va aller chercher vraiment ceux qui s'intéressent vraiment au sujet de qui était David Bowie. Mais bon, pour le moment, on n'a pas encore de date de sortie. Tout ce qu'on sait, c'est le synopsis que je viens de vous donner et le titre Stardust. Vous allez voir ça, la photo, l'acteur Johnny Flynn, un acteur de télévision. Je pense qu'il a joué dans Downton Abbey, mais ça se peut que je me trompe. Qui reprend le rôle du père du réalisateur. Mais j'enchaîne très rapidement et sans plus ou moins de raison sur une nouvelle qui a fait un petit peu plus de grand bruit. Est-ce que tu as regardé, toi, Vicky, il y a quelques années ou même tout récemment, la série Breaking Bad?
Oui!
Oui, bon,
très bonne des nouvelles,
Autres, bon... Je sais, bon, le film va sortir prochainement. On pourrait en parler dans nos sorties et tout et tout. Et on va peut-être en parler, je sais pas trop. Ce que je veux tout simplement dire, vraiment, c'est que Netflix est en train de développer une stratégie de marketing qui joue beaucoup sur la surprise et le côté immédiat des choses.
Oui, c'est voici la sortie de cette semaine. Enfin, il y a du coming soon, mais genre dans 2-3 jours, oui, max une semaine.
On est très proche des dates de sortie, tout ça, et on est rarement au courant de ce qui est en train de se préparer chez Netflix. Et c'est là que je vais en venir, parce qu'il y a quelques semaines, je pense qu'il y a une semaine, tout du moins, Bob Odenkirk, qui est un personnage récurrent de la série, qui a eu droit à sa série spin-off, Better Call Saul, autres, a affirmé dans une entrevue que non seulement un film Breaking Bad est en train de se préparer, mais il était déjà réalisé, puis personne ne le savait.
OK.
Et là, bon, ça l'a soulevé un peu les soupçons parce qu'en effet, il y avait des rumeurs, mais ça allait pas plus loin qu'à ce stade-là. Et finalement, surprise, coup de théâtre, justement, bonne annonce, El Camino, a Breaking Bad movie. Petit teaser d'une petite scène, vraiment, là, on est encore là dans l'extrait, la petite anecdote dans tout le film. Vraiment, on garde un nappe de mystère là-dessus que je trouve assez intéressante et peut-être que c'est, en quelque part, le meilleur argument de Netflix contre la venue des prochaines plateformes de streaming. Ce côté-là, cette manière-là de pouvoir arriver avec quelque chose qui va nous surprendre. C'est sûr qu'on autant on peut là, être en extase devant tout le contenu que Disney offre, on peut pas dire qu'il y a grand-chose de surprenant à avoir des séries Marvel, Star Wars et tout et tout. Là, bon, est-ce qu'il y avait vraiment du monde qui s'attendait à ce que Netflix fasse un film Breaking Bad, mis à part avec les rumeurs qu'on avait? J'en doute fortement. L'autre côté, c'est sûr que bon, ça crée peut-être une sorte de précédent à force de vouloir créer la surprise comme ça, des fois... On peut se prendre les pieds dans le tapis, hein. Je pense à il y a un an et demi de cela, quand Netflix avait annoncé le soir du Super Bowl la oui. sortie de Cloverfield Paradox. Gros coup de pub, très efficace.
Mais en même temps, c'était ce qu'il fallait faire avec ce film-là.
Peut-être.
C'était ce qu'il fallait faire, François, pour être une grande fan de cinéma d'horreur. Et j'étais en plein dans le podcasting d'horreur à ce moment-là, fait que c'était the shit, là.
Ouais,
c'était
the talk
of the town. C'était ce qu'il fallait faire, parce que le film, on ne pouvait pas le marketer autrement.
Non,
c'était la meilleure façon de le marketer.
On l'aurait perdu,
on l'aurait perdu,
ça, c'est sûr. Ce que je veux dire, par contre, c'est qu'à force de répéter peut-être ces effets-là qui peuvent devenir aussi assez décevants, ça peut finir par jouer contre Netflix, en quelque part. Bon. Je dis ça, là, on est dans la spéculation, là, et tout, mais ce que je veux dire, c'est que c'est autant une bonne manière de marcher que ça peut être dangereux. Mais encore là, comme je dis, c'est certainement le meilleur moyen de Netflix pour rester vraiment, là, garder l'attention de l'auditoire, des spectateurs. Donc, espérons que ce El Camino, a Breaking Bad movie, soit à la hauteur des attentes qu'il suscite. Et moi, je l'espère personnellement, pour quelqu'un qui n'a seulement vu que l'épisode 1 de Breaking Bad, que ça soit aussi un bon film en soi.
Oui, c'est ça. Mais, tu sais, encore, est-ce que c'est nécessaire? Moi, je trouvais la fin de Breaking Bad parfaite. Je pense que les gens ne sont pas capables de laisser aller leur série.
Ah, souvent.
Ça, c'est mon opinion par rapport à ça. Quand je l'ai vu, je dis, ah, bonne nouvelle, mais la fin était parfaite. La fin, est-ce qu'on était. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de misère avec ces choses-là. C'est comme les films Sex and the City, ils sont tellement mauvais, les films. Oui, il y a quelques scènes, le fun pour les fans de Sex and the City au niveau mode et tout ça, quand elle fait son shooting photo en robe de mariée, oui, c'est excellent. Mais le contenu du film nous amène tellement pas ailleurs.
En changeant le format, on change beaucoup de la manière dont on présentait les personnages, dont on faisait les péripéties sur plusieurs épisodes.
Exactement.
On a le temps.
Il y a des réussites, par exemple, le Simpson Movie. Je suis désolée, mais pour moi, ça, c'est une réussite énorme.
Oui, mais encore là, tu vois, là, on est dans une émission sitcom. Peut-être que ça aide aussi, parce que les épisodes en soi sont anecdotiques.
Et voilà, c'est ça, c'est un très long épisode, effectivement.
Ouais.
C'est comme ça que je le vois aussi.
Ouais.
Mais c'est ça, parfois, allant en film, on a l'impression que c'est le public qui n'est pas capable de laisser aller ses personnages et on leur donne beaucoup de nostalgie plus que de contenu.
Ah, tout
ça, c'est dommage.
Oui, c'est bien vrai. Alors, on verra bien qu'est-ce qui adviendra de ce El Camino, a Breaking Bad movie.
Si la musique ne marche pas.
Quoi ? Arrêter ? Juste exister ?
Est-ce que tu joues déjà ?
De la folk.
De la folk. Je croyais que tu disais musicien.
J'ai besoin d'argent.
Quoi encore?
T'es jamais préoccupé par l'avenir?
Tu veux dire partir vivre en banlieue, avoir des gosses?
Et c'est mal.
Si c'est que ça la musique pour toi, moyen d'en arriver là, alors oui, c'est un petit peu carriériste. C'est même un petit peu ringard. Et un petit peu triste.
On vous l'a répété maintes et maintes fois au cours de l'été. Hein. L'été, c'est fait pour jouer, c'est aussi fait pour aller au cinéma et c'est aussi pour faire un peu de rattrapage.
Oui!
Nous voilà donc arrivés à ce segment, Vicky, le moment où tu vas nous faire la critique d'un film que t'avais peut-être manqué à sa sortie.
Oui, exactement. Rattrapage par Journée grise, même s'il y a eu peu de Journée grise dans le mois de juillet août.
On va être
content. On va être content.
Oh, oui.
Alors oui, en fait, si tu sais, il y a quelques semaines, j'avais amené comme nouvelle qu'on allait voir de plus en plus les top 10 de la décennie sortir. Les top 100, les meilleurs films de la décennie.
Oui,
et celui qui avait fait le plus réagir sur mon Facebook, c'était Inside Llewyn Davis.
Pourquoi?
Parce qu'il avait fait le top 5. Si c'était pas même la quatrième position. Et beaucoup disaient, ben voyons, c'est même pas le meilleur des frères Coen. Vraiment, là, ça a été celui qui a fait le plus décrier sur mon Facebook. Certains disaient, ah, moi, j'ai pas aimé ça, mais je peux comprendre sa place, même si j'ai pas apprécié ce film. Mais il y avait une unanimité comme quoi Inside Llewyn Davis n'avait pas rapport comme numéro 4.
Okay.
Et je me suis dit, je ne l'ai jamais vu. Oui.
Ce qui a piqué ta curiosité, exactement.
Ça a piqué ma curiosité parce que je suis comme, sont sur mon Facebook, il y a un débat sur mon Facebook auquel je ne peux même pas participer parce que je n'ai pas vu le film.
Alors allons-y, sautons
alors,
dans la fosse au lion.
Hier, je triais mes films et qu'est-ce que je vois? J'ai ce film chez moi.
Non.
Scream. Je l'ai en plus.
Bon.
Pourquoi je ne l'écoute pas si je l'ai? Hein?
Aucune excuse.
Et j'avais plus d'excuses, alors j'ai démarré ça hier soir avant de venir. Ce matin. Et le film, c'est exactement ce à quoi je m'attendais.
Qu'est-ce que c'est?
J'ai pas de déception, j'ai pas de hurrah, c'est exactement ça. C'est l'histoire d'un gars qui fait de la folk music. On est en 1961, on est très dans les beiges, les bruns, les gris, il mouille, il fait pas beau. C'est une semaine difficile dans la vie de Llewyn Davis. C'est un chanteur folk qui est pas prêt à faire aucune concession pour sa musique, fait que ça peut le rendre un petit peu acariâtre, un petit peu négatif, dans le sens il se fait souvent traiter de trou de cul dans le film et, et avec raison, mais parce qu'il veut vivre de sa passion, de sa musique, sans concession. On les connaît un petit peu, ces artistes bohèmes, un peu, à notre époque, on dirait un peu punk.
Ouais.
Ces artistes bohèmes qui ne veulent pas faire partie de la société, qui considèrent que leur art, c'est tout, et qu'eux ont compris quelque chose que nous n'avons pas compris et que c'est par leur art qu'ils vont nous l'expliquer et nous convaincre.
Je trouvais qu'il y avait, encore là, bon, je te laisse toute la place, j'ai pas vu le film, honte à moi, mais je trouvais personnellement dans les extraits, les balances que je voyais que c'est comme si le personnage de Llewyn Davis, qui est interprété par Oscar Isaac, était comme un hipster avant l'heure.
Oui, exactement.
Il y a quelque chose de ça, c'est peut-être là que ça fait écho
ben,
à
le film
a
été fait en 2013,
réalité.
Hein? En 2013, on était dans une époque hipster. Donc, je pense que le fait qu'on était dans une ère hipster a aidé à la glorification du film parce que je pense que ce personnage-là est ce que les hipsters voulaient aller, c'est ce qu'ils voulaient incarner. Cet homme qui va ne vivre que de sa musique folk. En plus que le folk a été énormément remis au goût du jour durant cette époque-là, 2010-2014.
Une sorte d'artiste pur.
Oui,
volonté de
oui,
vouloir être
exactement.
Un
une volonté de vouloir être un artiste pur, une volonté que tout est une bullshit, puis tout est fake, puis... lui, il l'est pas, et lui, il vit sur les sofas d'un et l'autre. Là. La majorité du film, c'est sa quête d'un nouveau sofa pour dormir la nuit. Il est sans abri, comprends? Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de domicile fixe. Il vit au crochet des autres, dans un sens, parce que lui doit vivre de sa musique. Il y a aussi le fait qu'il a été dans un duo, et la personne de son duo s'est suicidée. C'est un petit peu un punch du film. On tourne autour du pot avant. Mais tu sais, je pense que ce matin, on est dans les spoilers aussi.
Un spoiler de 2013, c'est pas si pire.
Exactement. Puis tu sais, c'est juste parce que tu comprends qu'il s'est passé quelque chose. Puis c'est un peu plus tard dans le film qu'on te l'apprend. Mais c'est évident qu'il s'est passé quelque chose avec son duo Mike. Et plus tard dans le film, on lui dit tu devrais retrouver ce duo-là. Ça devait être bon. Puis lui, ça le fâche en disant ben, je le sais que c'était bon ce duo-là, mais c'est pas possible. Cette personne-là s'est suicidée. Et il y a aussi cette espèce de côté terne au suicide dans le sens où on comprend pourquoi il s'est suicidé, s'il était dans le même état que notre personnage principal, Llewyn Davis, à se chercher un nouveau sofa chaque nuit, faire des gigs pas payantes, ne pas être respecté dans son art, mais aussi ne pas vouloir faire aucune concession pour pouvoir vivre de son art et de considérer que son art, c'est ce qui va le sauver. On peut comprendre son ami, le geste qu'il a posé, puis on en est même à se dire, est-ce que notre personnage va poser le même geste? Ou pourquoi ne l'a-t-il pas posé? Pourquoi, tout le long du film, il ne met pas ça sur la table, que lui pourrait commettre ce geste-là? Donc, c'est assez lourd comme film, autant dans l'éclairage, comme je te dis, c'est tout le temps gris, il n'y a pas de lumière.
Quelque chose de sépia un peu dans la
lumière. Oui, encore une fois, un des filtres Instagram préférés des hipsters.
Ben oui, c'est vrai, j'avais pas pensé.
Oui, il y a énormément de... Oui, très dans le sépia, là, tu sais, là, très dans le brun, le pêche, mais... Tu sais, le sujet est sombre en soi parce qu'on veut le rendre sombre. Ça peut être une comédie. Le film, on rit parfois, entre autres avec une histoire de chat où un chat s'est sauvé, puis on retrouve le chat. Finalement, c'est pas le bon chat. Puis là, elle lui dit, ce n'est pas mon chat, c'est pas un mâle. Puis elle fait juste crier, où est son scrotum? Hein? Où est son scrotum? Mais donc oui, il y a des beaux moments.
Les frères Cohen sont, parce que c'est les réalisateurs, les frères Cohen, si on ne l'avait pas déjà mentionné, sont assez habitués eux-mêmes à la comédie noire.
Je veux dire, oui, c'est ça exactement. C'est il y a du rire. C'est ça, il y a du rire au travers du lugubre. Mais je ne vois pas en quoi ce film le rend si excellent. Tu sais, quand je dis je m'attendais exactement à ça, moi, dans vie, je vais te faire une grande révélation. Si ça n'a pas déjà été fait, je ne suis pas une fille qui écoute la musique.
Ah.
J'ai pas de musique sur mon téléphone. J'ai aucun abonnement à Spotify ou quoi que ce soit. J'écoute pas de musique dans ma vie.
Soit.
Si j'ai une journée comme là, j'ai pas l'internet depuis un bout, je suis allée chez des amis me downloader des podcasts, puis j'écoute des podcasts depuis une semaine. C'est ce que je fais dans mes journées quand je fais du ménage ou quoi que ce soit. Je me mets un film pour plier mon linge ou j'écoute des podcasts. Alors, je n'écoute pas de musique. Et ce film-là est vendu comme un des meilleurs films entourant la musique de son époque. C'est sûr que moi, ça ne m'attirait pas. Et c'est pour ça que ça a été si long que ça avant que je l'écoute, parce que le sujet en soi ne m'intéressait pas. Et c'est vrai que le film prend des longues pauses pour mettre des chansons. On n'aura pas, par exemple... Lui qui commence à gratter sa guitare, qui commence la chanson et fondu qui nous amène ailleurs dans une autre scène. Non, s'il gratte sa guitare puis il part une chanson, on va l'entendre du début à la fin, cette chanson-là.
Okay.
Donc le film se permet vraiment des pauses musicales de chansons folk. C'est comme une comédie musicale sans la danse, si on veut, parce que c'est vraiment une pause qui nous amène dans son univers à lui. Donc, dans le être, dans le inside Llewyn Davis, dans le être en français Llewyn Davis, c'est quand que on attend et on l'écoute chanter. Est-ce que la magie s'opère ou pas? Parfois, ça s'opère. Parfois, elle ne s'opère pas. Des fois, on est comme, ben voyons, c'est le meilleur au monde. Donc, on est comme, il est tellement précieux, prétentieux que oublie ça, ça ne fonctionne pas.
Mais c'est un peu comme le personnage a un certain grand respect pour la musique folk. Donc, dans la mise en scène, on se permet pas de couper ces chansons-là, peut-être.
Exactement, exactement. Mais c'est pas tant que le fait que j'aurais aimé qu'on les coupe que le fait que ce film-là est exactement ce à quoi je m'attendais. Donc, moi, ces moments-là étaient des longues pauses. Mais le film, c'est pas une surprise. Le film est annoncé sur la pochette partout, même dans le IndieWire, dans la liste, le meilleur film sur la musique. Oui, bien sûr, c'est un bon film sur un musicien qui en arrache, mais oui, c'est un bon film sur rendre une chanson, parce que la musique est là, la musique est présente, on la coupe pas, on la chure pas, on la laisse vivre. Mm-hmm. Et ça, c'est sûrement important. Même je suis convaincue que c'est important pour les gens mélomanes qui écoutent un film sur de la musique folk, qu'on ne hachure pas la chanson, qu'on ne la termine pas, mais qu'on la permette de vivre.
Ouais.
Alors oui, je comprends l'importance. C'est juste moi, en tant que cinéphile, je ne vois pas en quoi ce film-là mérite une quatrième position des films de la décennie 2010 à 2020, ou même des fois c'est de 2000 à aujourd'hui, mais généralement ils vont de 2010 à 2020. Je ne comprends pas la place de ce film-là, donc je me rallie à mes amis en disant « Le film est bon, mais
objectivement c'est pas mauvais.
Il est bon.
D'accord.
T'sais, il y a un bon humour, les dialogues sont bons, on est habitué encore une fois les frères Cohen de dialogue, d'échange, dialogue assez punché et dense. Donc c'est bon, mais il est pas surprenant. Il nous surprend pas. Il vient pas me chercher à une place où je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas. C'est exactement ça, de A à Z, la fin du film. Je fais, ben oui, c'est ça.
Okay.
Tu sais, j'ai pas eu de grands élans de surprise. J'ai eu quelques bons fous rires. Mm-hmm. Mais oui, le film respecte la musique, mais rendu là, est-ce que ça en fait un bon film ou un bon film sur la musique?
OK, je vois ce que tu veux dire. Surtout en plus que les Coen, justement, dans les 10 dernières années, nous ont sorti aussi d'autres pépites qu'Inside Llewyn Davis. Hein. Ouais. On a eu, début 2010, il y avait True Grit, Western avec Jeff Bridges. Ouais. On avait eu Ave César, je pense, avec George Clooney, okay, Josh Brolin. Qui était sur le Hollywood des années 50 et okay. tout ça, mais ça avait été un semi-flop, si je me souviens bien, celui-là. Donc,
mais c'est ça, puis c'est sûr que c'est un des meilleurs des Franco-Cohen, mais
c'était
c'est
ma
vraiment...
question, par rapport aux autres, il se situe où, là? Si on sort de cette idée-là, justement, du film de la décennie tel que défini par des grands magazines, dans la filmographie en tant que telle des frères Coen, il se situe où? Est-ce qu'on est dans quelque chose de... un ovni ou on est dans un terrain commun? Est-ce que
ben,
vraiment...
tu sais, c'est sûr que moi, ce que je connais le plus des Franco-Cohen, ça reste Fargo. Puis ça reste Fargo, même la série télé. Et tu sais, si quelqu'un voudrait connaître les Franco-Cohen en 2019-2020,
ouais.
C'est sûr que ça fera pas le top 20. Mais moi, j'irai avec la série Fargo, que je trouve excellente, qui est disponible sur Netflix. Bien avant certains des films, comme je vois A Serious Man, qui pour moi n'avait pas fonctionné énormément. Encore une fois, j'avais eu quelques rires. Puis oui, Inside Llewyn Davis, je le suggérais, mais je le suggérais à des gens qui aiment explorer la musique au cinéma, puis qui aiment explorer la vie d'un artiste. Et encore une fois, moins d'artifice qu'un Bohemian Rhapsody, moins une lignée d'une personne qui va devenir une star. Puis il n'y a pas la nostalgie aussi dans ce film-là que c'est une vraie personne qui existait puis que dans 10 ans plus tard, on le sait qu'elle va devenir une big star.
Ouais.
Non, cette personne-là a crashé, là, tu sais.
Ouais, ouais. On est dans un personnage de fiction, donc ouais. On n'a aucune idée de ce qui va arriver.
Ah, puis on le sait.
Une petite question comme ça, la série Fargo, est-ce qu'elle est réalisée par les Coen?
Produite et certains épisodes réalisés par.
Ah, ok. Bon, je me demandais bien. Ok, donc ben c'est ça, je veux dire, mais en quelque part, Fargo aussi, justement, c'est de la comédie noire, donc c'est un peu encore là, je veux dire, l'intérêt que tu avais sur ce film-là, le seul vraiment qui avait, là, peut-être pour te raccrocher, c'était ce côté-là punché, c'était les dialogues.
Oui, c'est ça, exactement, mais comme le personnage veut connaître son évolution, c'est sûr, parce que je le sais qu'il va se mettre tout le temps les pieds où ce qu'il faut pas, mm-hmm. Puis qu'il va avoir une espèce de petit affront, dans le sens où il rencontre quelqu'un, il fait une gig, puis après il dit « t'as-tu un sofa à me prêter? » tu sais. Donc je veux voir son arrogance, son affront, jusqu'à où il va la traîner. Ceci dit, est-ce que ça en fait un film incroyable et exceptionnel? Non.
On est dans le doute.
Ouais, ben pas un numéro 4 des meilleurs films de la décennie.
Ah, c'était numéro 4?
De mémoire, c'était numéro 4.
Ok. Ben, de toute façon, comme on l'avait dit au moment où on avait parlé de cette fameuse liste IndieWire,
oui.
Il était peut-être encore tôt, hein,
oui.
Pour l'évoquer.
Ouais, c'est ce qui arrive.
Sûrement que ça sera sujet à changement. Au cours des prochains mois, on risque d'en voir sûrement plusieurs aussi. On verra bien à ce moment-là qu'est-ce que les autres auront à nous offrir comme meilleur film de la décennie. Mais pour toi, c'est un peu de ce que je comprends, mi-chaud, mi-froid.
Ouais, c'est ça.
Mais pas de quoi en faire tout un cas.
Ouais, exactement.
Soit. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre première critique de cette émission-ci. Je vous offre la mienne, ma vie avec John F. Donovan, pas la mienne, le titre du film. Après la pause, on se revoit dans quelques minutes, alors que je vous offre ma critique et qu'on poursuit avec nos sorties à surveiller de la fin d'année 2019. De la fin de la décennie, justement, peut-être qu'il y aura un film parmi ceux-ci qui se retrouveront dans les meilleurs films de la décennie. Bref,
oh.
J'arrête de m'étaler, j'arrête de spéculer. On verra tout cela plus tard. On se revoit.
savons comment ça a commencé. Il a répondu à une de vos lettres de fan. Et à partir de là, une correspondance improbable a débuté, etc., etc. Pourquoi ne pas remonter au tout début comment tout a commencé entre vous et John F. Donovan?
Je venais d'avoir 11 ans. Les élèves à l'école se moquaient de moi parce que j'étais le petit nouveau.
Rupert, désolé.
Ma mère et moi, on ne se parlait pratiquement plus. Tous mes rêves s'étaient envolés. Le seul qui avait survécu, c'était John.
On choisira l'impression finale, Barbara.
Ouais, mais à Noël, t'auras un poney.
Alors, vous êtes de retour, mesdames et messieurs, pour cette dernière demi-heure de la programmation estivale de Cinébrunch. François Bertrand au micro, accompagné, comme à l'habitude, de Vicky Langlois. Et le petit extrait sonore que vous venez d'entendre, c'est celui de Ma vie avec John F. Donovan, dernier film de Xavier Dolan. Film qu'on attend depuis 2 ans, ça fait quand même 2 ans que le film est sur les tables de montage, alors qu'il a essuyé un accueil assez froid au dernier festival de Toronto, lequel a un peu saboté les chances du film de vraiment connaître une bonne vie à l'international et surtout pour le public américain, alors que c'était le tout premier film en langue anglaise américaine de Xavier Dolan, avec une distribution des plus prestigieuses. On parle de Susan Sarandon, Kathy Bates, Natalie Portman, Jacob Tremblay, qui est quand même l'enfant acteur le plus en vogue en ce moment au cinéma, Kit Harington, bien entendu, dans le rôle principal. Film qui fait plusieurs échos à la vie de Dolan, ou du moins à son enfance, à son rapport avec le cinéma, la star, alors qu'on suit un jeune enfant, Rupert Turner, qui est en extase, en admiration devant une star de série télé assez série B. Hein, on est, oui.
C'est tous des personnages de fiction. Hein. Moi, c'est ce que je me demande tout le temps en écoutant cette bande-annonce-là et en lisant. Est-ce que tout ça, c'est des personnages? John F. Donovan, tout ça, c'est tout de la fiction. Tout, là.
Oui,
okay.
Oui, fortement inspiré quand même là, de beaucoup de ce qui de ce qui était en vogue dans les années 2000. Beaucoup, hein. Comme je dis, on est dans, surtout dans la jeunesse, l'enfance de Xavier
Dolan. Oui,
Dolan.
Mais c'est juste ça. Moi, là, il y a tout le temps eu l'idée de est-ce qu'on parle de trucs vrais ou pas?
C'est ce qu'on a voulu jouer beaucoup là-dessus, justement, donner un aspect vraiment véridique à tout ça. Il faut dire que, justement, le personnage de John F. Donovan est la star d'une série télé à la Buffy contre les vampires, Charmed, okay, et compagnie. Ce qui est quand même assez drôle, mais donc voilà, relation qui va se développer entre les deux alors qu'ils vont commencer à s'écrire des lettres, à entretenir justement une correspondance entre les États-Unis et l'Angleterre, et un jour cette correspondance-là va être mise en lumière, le public va l'apprendre au même moment que ce même public-là va apprendre l'homosexualité refoulée de John F. Donovan, ce qui va élever plusieurs soupçons, saboter sa carrière et va terminer par achever l'acteur dans une sorte de spleen, dépression de la célébrité d'un jour qui est devenue un peu l'ordure du lendemain.
Okay.
Donc, comme je disais, un film qui a eu un accueil assez difficile. Xavier Dolan lui-même ne s'en cache pas, hein, dans les quelques rares entrevues qu'il a accordées en promotion du film. Il a avoué lui-même avoir connu toutes les déceptions artistiques possibles avec ce tournage-ci, et ça se sent. Alors, okay, il y a beaucoup de monde, le film était déjà sorti en France il y a quelques mois, beaucoup l'annonçaient vraiment comme un navet. Est-ce qu'on est là-dedans? Oui et non. C'est-à-dire que pour moi, c'est une belle déception anticipée. Alors, déception parce que le film, oui, ne réussit rien de ce qu'il tente de faire. C'est-à-dire que déjà là, le titre est assez trompeur parce que Ma vie avec John F. Donovan, les deux personnages ne se rencontrent jamais. Et pire que ça, on les voit très rarement écrire des lettres ou justement cette fameuse correspondance qu'ils ont. Elle est hors champ, elle est hors cadre. Donc, ça, on n'est jamais près de cette relation-là. Peut-être qu'on voulait jouer sur l'idée de est-ce que c'est vrai qu'ils entretenaient cette correspondance-là, est-ce que c'est faux? Mais dès le début, on nous le vend que c'est vrai. Donc, on n'a juste pas d'impact. Le fameux show don't tell du cinéma. Hein. On dit toujours, s'il y a quelque chose que tu veux exprimer, que tu veux communiquer aux spectateurs au cinéma, tu le montres au lieu de le dire.
Oui,
hein,
oui.
Si on, par exemple, un film policier où tout le long, tout le monde dit que le détective est super violent, c'est le meilleur et tout, mais que tu le vois jamais commettre un tel acte de violence ou être justement le fameux détective en révélant une information que personne n'avait vue, mais qu'on fait juste le répéter, on n'est pas convaincu, on se convainc pas finalement à la fin.
Ouais.
Et c'est ça le gros problème du film, on le voit que le montage est charcuté entre des histoires qui s'imbriquent les unes par-dessus les autres, des idées, des intrigues comme ça qu'on ne résoudra jamais. Pourquoi Joseph Donovan entretenait cette relation-là avec ce jeune enfant-là précisément? S'il recevait des lettres de tout le monde, pourquoi c'est cet enfant-là à qui il a décidé de se confesser, de parler et tout?
C'est
et tout.
Une très bonne question.
Une très bonne question à laquelle on n'aura aucune réponse. Et pire, en fait, c'est que la fin nous laisse sur une fameuse note d'optimisme, comme si on avait trouvé cette réponse-là. Mais on est complètement laissé en plan. On est largué parce que, bon, le film nous donne l'impression que c'est résolu, mais on sait très clairement que ce n'est pas le cas. À ça s'ajoute vraiment toutes les gimmicks qu'on retrouve dans la mise en scène d'un film de Xavier Dolan qui est, pour le coup, assez réussi. Vraiment, les jeux de flou sont toujours aussi intéressants. Les choix de cadre, les angles de vue, on est toujours en trois quarts d'eau où on voit là, seulement le relief du profil du visage du personnage, comme si on était un peu dans son intimité, compagnie. Ça, on retrouvait ça dans ses autres films, on le retrouve encore là. Et c'est assez réussi. Surtout que la direction photo est signée d'André Turpin, qui est sûrement l'un des meilleurs DP là, qu'on a au Québec. Et c'est assez beau à voir. Après ça, c'est des performances qui sont relativement gâchées. Nathalie Portman et Susan Sarandon se partagent à eux deux le personnage d'Anne Dorval dans Mommy. L'une étant une mère assez dure, mais pour les bonnes raisons, et l'autre étant un peu fêtarde alcoolique. Sinon, les personnages, bon, le personnage de Kit Harington, le fameux Joseph Donovan, a des problématiques qui datent, malheureusement, je trouve, d'une autre époque. Non pas que le problème de l'homosexualité dans le showbiz américain n'en est plus un, mais c'est-à-dire que la manière dont on nous le présente, au vu de ce qu'on a vu dans d'autres films, justement, depuis, il n'y a rien de surprenant, il n'y a pas de grande révélation là-dessus. Et comme le film, la promotion et tout, quand même, se basait beaucoup sur une sorte d'intrigue de, justement, c'est quoi ce fameux secret de Joseph Donovan, le mystère de Joseph Donovan et tout et tout, et que finalement, ce soit son homosexualité refoulée, surtout si on connaît la filmographie de Xavier Dolan, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Et c'est là qu'on en vient à un film qui est assez plan-plan, même un film qui, par moments, se gêne un petit peu. Je pense à deux scènes, notamment une scène qui est un peu gênante sur le plan technique, tant on est dans quelque chose de pompeux et de sirupeux, une sorte de retrouvaille entre le jeune enfant et sa mère à la gare où on court au ralenti sur le Stand By Me de Florence and the Machine. Et de l'autre côté, on a une scène, en fait, le film est recouvert de cette entrevue-là que le jeune garçon plus vieux va donner à une journaliste pour faire connaître sa version des faits de l'histoire entourant Joseph Donovan. À une reporter prisée qui a reçu tout plein de prix, reporter de guerre, entre autres, qui est allé à Alep et tout. Et à un moment donné, justement, elle va dire, moi, vos petits problèmes de bobo et tout, là, d'une star à Hollywood, on s'en fout un peu. Et là, le personnage va partir dans une tirade sur l'importance que cette histoire-là a dans la société d'aujourd'hui, comparée à des catastrophes ou des guerres ou des problèmes, des crises migratoires, bref, tout ça. Je comprends le point, mais la manière dont c'est amené est assez gênante, étant donné justement qu'au final, on comprend même pas c'était quoi l'importance de cette histoire-là, et on a la prétention dans une scène de nous faire croire qu'elle est tout aussi importante que tous les grands conflits et problèmes dans le monde. c'est un peu dur à avaler. Ce qui fait que, bon, c'est un film un peu tout perdu. Je comprends pourquoi, justement, on a essayé de le tasser, là, de le mettre en fin d'été, pas faire grosse promo, tout ça. C'est un film qu'on va oublier rapidement, étant donné que Mathias et Maxime vont sortir bientôt. Je félicite, j'applaudis, par contre, l'audace de Xavier Dolan, vraiment, d'avoir reconnu un peu les difficultés qu'il a retenues sur ce film-là. Et c'est pour ça que je dis que c'est une belle déception anticipée. C'est que, malgré tout, ça ne me donne qu'envie de voir la suite des choses, parce que je me dis, après s'être planté de telle manière, justement, il ne peut que changer un peu son fusil d'épaule, peut-être aller voir ailleurs, aller chercher des thématiques qu'on n'a pas encore vues dans son cinéma. Bref, c'est un film que je ne recommande pas, mais malgré tout, j'ai assez hâte de voir la suite des choses.
Oui, je t'ai à peine relancé, François, je m'excuse, mais parce que c'était correct. Vraiment passionnant ce que tu disais. Et ça m'amenait plein de réflexions dans le sens où, est-ce qu'on peut en revenir, tu sais, un réalisateur qui fait un mauvais film? Tous les réalisateurs ont fait au moins un mauvais film. Oui. On parlait des frères Coen tantôt, il y en a un paquet de films qui ont floppé. Mm-hmm. Et pourtant, on est encore capable de parler d'eux avec admiration. Ouais. On dirait qu'on veut que Xavier Dolan se plante.
Ben,
dans son rêve américain, surtout.
Ben, je sais pas, moi, justement, j'étais assez ambigu. Et c'est moi ce qui me faisait mal, justement, avec ce film-là. C'est que, si je me trompe pas, c'est 37 millions de dollars qui a été offert comme budget. Pour un premier film d'un cinéaste québécois, c'est beaucoup. Et moi, personnellement, du moins, j'aurais aimé le voir réussir là-dessus. Ça aurait été intéressant de voir quelqu'un comme ça, parce que bon, si on veut le comparer à un Jean-Marc Vallée ou un Denis Villeneuve, la grande différence avec ce Genevieve Donovan là, c'est que Xavier Dolan ne fait aucune concession sur ce qui faisait son cinéma. C'est peut-être ça aussi qui a saboté un peu le film, sachant un peu que le public américain est encore un petit peu
mais
puriste.
Le public américain n'a jamais autant aimé ces films que le public français. Les 35 millions investis dans un film français auraient beaucoup plus d'impact.
Ah oui, c'est pas pour rien qu'il y a eu juste La fin du monde en premier, que Genevieve Donovan est sorti en France avant même d'être sorti au Québec.
Oui.
Bref, le temps coule et il va falloir y aller. Alors on enchaîne tout de suite bien rapidement. C'était ma critique de John F. Donovan. Et c'est sans plus attendre qu'on enchaîne avec notre tout dernier segment de cette programmation d'été, Vicky. Alors que nous avons décidé de s'intéresser à l'avenir, au futur, du moins jusqu'au 1er janvier 2020.
Ouais,
alors qu'on a retenu vraiment les films peut-être qui à surveiller dans les prochains mois, les prochaines semaines. Écoute... On perd pas plus de temps. Je te laisse commencer avec un premier.
Oui, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas une semaine ici qu'on va pas parler de Disney+, le futur channel de Disney.
Il faut bien, hein?
Il faut. Et sponsoriser sur tous les Facebook de ce monde, Lady and the Tramp. As-tu vu passer ça?
Oui, j'ai vu.
Mais là, on a une bande-annonce d'un film, La Belle et le Clochard, en prise de vue réelle, sur Disney+. Ouais. La sortie n'est pas annoncée en salle, la sortie est annoncée sur Disney+. Ça, c'est toute une nouveauté chez Disney. On nous dit ce film-là va potentiellement sortir en salle, mais ce qu'on veut vous sponsoriser puis que vous compreniez, c'est qu'il peut sortir chez vous directement à une telle date. Qu'on...
Je pense pas qu'il sorte en cinéma, lui.
Je pense pas moi non plus, parce qu'on annonce que Disney+.
Ouais.
Mais moi, je trouve ça fort. Fait que le film, tente ou pas, je pense que c'est à surveiller énormément. Est-ce que Netflix donne jamais ses chiffres? Est-ce que Disney... Pour brag, là, tu sais, est-ce que Disney, pour en mettre dans la face du monde, va sortir ses chiffres de Lady and the Tramp? Alors, pour moi, c'est un film à surveiller, cette Belle et le Clochard, qui n'aura pas de sortie en salle, mais une sortie directe. Et là, on le sait qu'il doit avoir mis le même budget qu'ils ont mis sur Mulan. Mm-hmm. Tu comprends? Mm-hmm. Il va y avoir Mulan en salle, mais il va y avoir celui-ci sur leur Disney Plus Channel. Et avoir la bande-annonce qui est sponsorisée, il y a de l'argent.
Okay.
Ils ont mis l'argent.
OK. Ben oui, ben écoute, dans la même veine, justement, moi, justement, du côté du compétiteur, bien entendu, j'avais retenu The Irishman, film de Martin Scorsese, très attendu, retour du trio...
Netflix ou Amazon Prime, celle-là?
Netflix. OK. Oui, Netflix qui a offert à Martin Scorsese le budget qu'il demandait depuis des années pour réaliser ce film sur la vie de Jimmy Hoffa, gangster, chef des syndicalistes... qui avait fricoté avec les Kennedy et tout ça. Bref, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci qui revient après des années et des années où on l'a pas vu, Joe Pesci, avec une technique de rajeunissement numérique sur 3 acteurs tout le long du film. C'est extrêmement prometteur. J'ai bien hâte de voir, surtout qu'on a annoncé ce matin, mesdames et messieurs,
mercredi
matin, on a annoncé que le film allait durer 3h30.
Oui.
Ce qui n'est pas peu dire. Alors, The Irishman, bien hâte de voir ce que ça va donner. Et très rapidement, du côté québécois, il n'y a aucune date de sortie en ce moment pour le film, mais on sait que d'ici la fin de l'année, on devrait recevoir le film Mafia Inc.,
oui,
le nouveau film de Pods, qui met en vedette Marc-André Grondin, Gilbert Sicotte, inspiré d'un roman sur la mafia montréalaise. Toujours très intéressé de voir du cinéma de genre au Québec,
oui,
surtout venant de Pods.
Tout à fait.
Il y a une seule bande-annonce qui est sortie, assez énigmatique. J'ai vraiment hâte d'en voir plus.
Aussi, si vous voulez écouter le podcast de l'humoriste Guillaume Wagner, il fait 1h30 avec Marc-André Grondin. Il y a un petit segment justement sur Mafia Inc. qui dit lui-même ne pas savoir quand le film va sortir, mais qui en est très fier.
Espérons-le.
Moi, je t'envoie ailleurs, en octobre, Jay, Silent Bob, The Reboot.
Je suis
une grande fan des Clerks et des Jay and Silent Bob.
De Kevin Smith en général,
Il y a ce dernier, Yoga Yozer, que je n'ai pas vu. Mais sinon, je pense avoir tout vu de Kevin. Oui, c'est ça que je t'ai dit. Là, je pense que Yoga Hoser, c'est un de mes derniers que je n'ai pas vu. Mais sinon, j'ai pas mal tout vu de Kevin Smith. J'adore son cinéma. J'adore son méta-cinéma. Et Jay Silent Bob, c'est un de mes duos iconiques avec le film Dogme, entre autres, qui me fait rire. Certains personnages de Dogme reviennent. Certains acteurs iconiques reviennent. Mais ce que j'aime aussi, c'est qu'on ajoute du gros nom au casting, entre autres avec Chris Hemsworth qui s'en vient. Et moi, je me dis, il va juste tout péter. Il met Val Kilmer, Chris Hemsworth. Il va chercher des acteurs, Joe Manganiello, que vous connaissez peut-être dans True Blood. Donc, il s'en va chercher des personnes, des acteurs qui sont prêts à faire rire d'eux. Qui sont prêts à faire rire de ce qui dégage. Chris Hemsworth, c'en est un, entre autres, qui va souvent... Oui, beaucoup d'autodérision. Il va souvent au show de Ellen DeGeneres pour montrer à quel point il aime pas ça, l'espèce de figure sexy qu'on a faite de lui, même s'il aime son personnage de Thor. Il aime beaucoup plus le Thor drôle que le Thor sexy et magnétique. Alors, ça risque d'être intéressant de Jay et Silent Bob en octobre.
Réalisé par Kevin Smith, le roi des geeks. Alors, l'Halloween approche aussi, octobre oblige, et cette année on a droit à un programme double de clowns.
Oui,
ça sort pas en même temps, sûrement pour des raisons justement de marketing, mais le 6 septembre, dans quelques semaines, on va avoir le chapitre 2
de It,
exactement, 2h45 le film, quand même pour un film d'horreur, c'est beaucoup. Film qui fait justement suite au succès surprise de 2017. Bien hâte de voir, la distribution est très intéressante, très proche justement de ce qu'on avait vu dans le premier film, dans les versions enfants, les versions vieilles, les adultes, je veux dire, les acteurs sont très bien choisis, je trouve. J'ai bien hâte de voir comment toute cette saga-là va se conclure, mais je disais programme double aussi parce que le 4 octobre, presque un mois plus tard, on a le fameux Joker qui va sortir, réalisé par Todd Phillips, mettant en vedette Joaquin Phoenix. Un film qui, de ce que j'ai compris au fil des entrevues, ne s'inspire d'aucun comic book, d'aucune histoire vraiment déjà connue sur le personnage du Joker. On est dans une adaptation complète, pure du personnage, ce qui risque vraiment de diviser, j'ai l'impression, mais... la bande-annonce est à l'image du film, vraiment une étude d'un personnage, de la psychologie, de la psyché d'un psychopathe, ça risque d'être un film très intéressant et assez surprenant.
Oui, tout à fait d'accord. Et moi, je m'en vais... en fait, il y a énormément de films d'horreur qui s'en viennent là, dans les prochains mois. Là. Vous allez en avoir un paquet. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et je commence ça avec The Addams Family, le dessin animé.
Ah oui!
Je pense qu'on va chercher les jeunes tôt pour le film d'horreur. Est-ce que tu aimes The Addams Family, toi?
Oui. Je peux pas dire que ça m'a marqué, mais c'est bien... J'aime ça.
Moi, j'ai adoré. On m'a appelé mercredi quand j'étais j'étais jeune, parce que je ressemblais à Mercredi Adams, je me mettais faisait les cheveux noirs et un petit air gothique. J'étais une Mercredi de Christina Ricci. Et The Addams Family, ça va être un animé qui va sortir en octobre, mais je suis vraiment contente qu'on ne tue pas la famille Adams. Je pense que la famille Adams a droit de revenir très souvent sur les tablettes.
Dans un format animation, peut-être je me trompe, je pense que c'est fait par les studios Illumination qui ont fait
Je crois, je ne l'ai pas dans la...
Je pense que c'est Sony qui avait Hôtel Transylvanie. Bref.
Oui, oui, on dirait oui beaucoup plus Hôtel Transylvanie dans le dessin.
Il y a quelque chose de Hôtel Transylvanie. Ouais. Et oui, je pense que le format, le nouveau format pour ramener la famille Adams est assez intéressant. Tu disais, oui, il y a quand même beaucoup de films d'horreur qui vont sortir. Moi, le 18 octobre, on a le retour du cinéaste qui nous avait offert The Witch il y a quelques années. Film d'horreur surprise, beaucoup d'ambiance, avec cette fois-ci The Lighthouse, Le Phare, mettant en vedette Robert Pattinson, Willem Dafoe. Un film en noir et blanc. On est dans quelque chose qui tient de la folie. Ça se rapproche beaucoup de Lovecraft en quelque part.
Ici, on nous donne une date en septembre plutôt comme sortie.
En septembre. Ah, OK. Peut-être que ça a changé. Mais bref, tout ça pour dire qu'il arriverait très bientôt et que j'ai bien hâte, vraiment, on dirait vraiment un film d'angoisse plus que d'horreur. Un réel film qui va envelopper vraiment, là, qui a une proposition, je trouve, très forte.
Tu m'intéresses aussi avec un 91 sur Metacritic. Ça risque d'être quelque chose.
Si vous n'avez pas vu la bande-annonce, allez la voir. C'est vraiment toute qu'une surprise, là, quelque chose qu'on n'attendait pas.
Je regarde le temps parce que moi, j'en ai deux. Fait que je vais y aller avec celle-là que j'ai le plus envie de parler.
On a le temps pour un dernier chaque.
Oui, OK. Oui. Ça va être A Beautiful Day in the Neighborhood avec Tom Hanks que je vais vous proposer parce que phénomène l'an dernier, Won't You Be My Neighbor, documentaire sur un acteur américain, Roger Smith, en fait un personnage, s'il vous plaît, si vous voulez, Fred Rogers, excusez-moi, et c'était Won't You Be My Neighbor, ça a été le documentaire de 2018 que j'ai le plus entendu parler, ça a été même le numéro un sur bien des listes, et là on en fait un film avec A Beautiful Day in the Neighborhood en salle autour du 22 novembre au Canada avec Tom Hanks, un retour de Tom Hanks aussi, il revient souvent, mais un personnage plus proche de son Forrest. Un personnage dans la joie et la bonne humeur. Un beau feel-good movie. Je finis ça en feel-good movie.
Oui, parce qu'on en a besoin ces temps-ci. On n'en a pas assez. Moi, écoutez, je ne surprendrai personne. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de films qui sortent qui peuvent être intéressants. Ad Astra, Dr. Sleep, Queen and Slim.
Moi aussi, Dr. Sleep, je l'avais.
Antigone, tout ça. Cats, ça pourrait être bien intéressant. Mais la même journée que Cats sort Star Wars épisode 9, conclusion de la grande saga de Star Wars. Et ça risque, bien entendu, d'être le film qui va le faire le plus jaser dans les prochains mois. Pour le meilleur, pour le pire, ça passe ou ça casse. Récemment, Disney a dévoilé cette semaine une bande-annonce qui fait un peu comme hommage aux anciens films et qui présente quelques petites images du nouveau. Ce qui me fait dire justement qu'on a peut-être un peu perdu le fil avec ces derniers films-là qui n'ont pas de personnages très forts ou intéressants. Mais bon, il faut bien conclure cette grande saga-là une bonne fois pour toutes. Est-ce qu'on va vraiment le faire? On verra bien, mais Star Wars épisode 9, bien entendu, c'est sûr, il va falloir surveiller ça parce que on pourra pas passer à côté.
Ah, tu vois, moi, il y en a plein que je vais écouter avant Little Woman, avant
oui,
Star Wars.
Ben oui, puis c'est
on
bien correct.
On va se croiser au cinéma, mais pas dans la même salle, mon cher François.
Puis c'est bien correct. Little Woman aussi a l'air bien intéressant. Puis pour ce qui est des Star Wars, je veux dire vraiment, je le surveille plus justement pour voir si finalement, est-ce que la saga va mourir à ce moment-là ou il va avoir un regain. On sent qu'il y a eu une sorte d'écœur en titre de Star Wars dans les dernières années. Alors, on verra bien ce qui se passe. Alors, c'était à peu près tout ce qu'on avait pour vous, pour notre dernière émission de la programmation estivale. Alors, j'en profite rapidement.
Oui.
Là, je me le permets, on ne l'a pas fait de l'été. Mais comme je disais, on vous laisse la semaine prochaine dans les doux bras de votre animateur habituel, Jim Boulay, avec Mélina et François qui vont se joindre à lui comme à l'habitude. Alors que, pour ma part, je vais migrer. vers mon émission de radio personnelle sur les ondes de la CFAC 88.3 au courant du mois de septembre. Je lance une nouvelle saison de mon émission « Peut contenir des spoilers ». Émission de plateau culturel où je vais à chaque semaine débattre, critiquer, parler cinéma, séries télé, audiovisuel, marketing, bref, tout ce qui entoure l'image et le son. Je vais aborder les différents sujets avec trois collaborateurs qui vont changer de semaine en semaine, qui vont revenir de temps en temps. Bref, si jamais vous avez apprécié ce format un peu léger de Cinébrunch au courant de l'été, sachez que vous pourrez me retrouver et peut-être même retrouver Vicky dans quelques épisodes de Peu contenir des spoilers qu'on peut retrouver aussi sur le site de la CFAC. Alors voilà.
C'est ainsi que ça se termine.
Et oui, voilà. Alors, on termine, bien entendu, en vous remerciant, mesdames et messieurs, d'avoir passé l'été avec nous. Ça faisait un plaisir de tenir la barre de cette émission en votre compagnie et en ta compagnie, Vicky.
Alors, oui, et on suit aussi les Kinoshows qui devraient être de retour si on continue de ce qu'il y a à suivre. Exactement,
les Kinoshows qui vont revenir si vous voulez des informations sur le site de Kinoestrie. Alors, on vous souhaite une bonne année et on se revoit très bientôt. Au revoir.
Au revoir.